Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Pour cet épisode, je reçois les autrices de BD, Marjena Sova et Émilie Plateau, qui se sont associées pour publier la bande dessinée pour laquelle je les reçois aujourd'hui, Viviane Mayer, Clair Obscur, aux éditions d'Argo. Alors vous connaissez peut-être Viviane Mayer, cette photographe qui est assez prolifique, dont l'œuvre a été découverte après sa mort en 2009. Et cette BD nous permet d'en savoir plus, non seulement sur la vie de cette femme partagée entre la France et l'Amérique, mais aussi sur sa personnalité, disons, kaléidoscopique. Et avec Marjena Sova et Émilie Plateau, on a parlé de la manière dont les photos de Viviane Mayer ont été découvertes, de ce qui a fait qu'elles se sont intéressées à cette grande figure, ou encore de l'articulation entre le dessin pour l'une et le scénario pour l'autre. Bonne écoute. Bonjour Marjena Sova.
Bonjour Thomas.
Et bonjour Émilie Plateau.
Bonjour.
On va partager une petite demi-heure ensemble à l'occasion de la sortie de cette bande dessinée. Viviane Mayer, Clair Obscur, qui paraît, ou qui a paru, le 26 janvier, je ne sais pas exactement quand sortira cet épisode. Alors, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas déjà, est-ce que vous pouvez peut-être en deux mots nous présenter Viviane Mayer, dont je vais au moins dire qu'elle est née en 1926 à New York et qu'elle est morte à Chicago, en 2009, dans l'anonymat, c'est assez important. Qui était-elle ?
Alors, donc Viviane Mayer, c'est une femme qui a vécu surtout aux États-Unis, ouais, et qui gardait des enfants. Donc, elle est passée de famille en famille toute sa vie pour garder des enfants. Et en parallèle de ce travail de nourrice, elle faisait des photographies dans la rue.
Mais en fait, elle était très farfelue, très curieuse. Elle amenait les enfants dont elle s'occupait avec elle dans ses pérégrinations à travers la ville. Et donc, je pense que pour ça, je pense que les enfants ne s'ennuyaient jamais avec elle. Et d'ailleurs, je me souviens que quand j'avais lu des entretiens avec certaines personnes qui l'ont embauchée, ces gens-là disaient que voilà, les enfants ne regardaient jamais la télé avec elle, qui s'ennuyaient jamais parce qu'elle était très créative et je pense qu'elle était vraiment, elle les propulsait vers quelque chose d'autre que juste s'occuper des enfants. C'était pas que ça.
Ouais.
C'était au-delà de ça.
Bah justement, tu viens de parler de créativité, page 60 dans la BD. Elle dit « J'aime le monde qui m'entoure, je le mémorise dans sa beauté et sa laideur. Dans tout ce que les gens ne voient pas, moi ça m'intéresse. » Alors elle parle d'elle, mais ça pourrait être une bonne définition de sa photo à Viviane Mayer. Précisément, c'était un peu une espèce de photographe du oui quotidien.
Oui, tout à fait. Je pense, ouais, que c'était vraiment ça. Elle photographiait tout. C'était comme son journal intime. En fait, c'est comme ça aussi qu'on a réussi à la reconstruire. C'est grâce à ses photos, parce qu'on sait précisément comment elle se promenait, quelles étaient ses trajectoires, ce qu'elle faisait. C'est un peu sa façon d'écrire le monde, en fait, ouais, de l'archiver.
Une espèce de portrait aussi, finalement.
Oui, c'est ça. C'est vraiment une boulimie d'engranger plein d'images, plein de photographies. Et puis, elle gardait aussi énormément de choses matérielles, comme des tickets de caisse, comme des journaux. Et en fait, au fur et à mesure de sa pratique de photographe, ouais, elle a fait énormément d'autoportraits. Ouais. Donc, il y a beaucoup de portraits d'elle, à la fois dans des miroirs, des reflets dans de l'eau stagnante, par exemple, sur les trottoirs, des ombres aussi. Et tout ça, ça crée son œuvre et son univers bien à elle, et ça la définit.
Alors, ces photos, leur particularité, bien sûr, c'est qu'on les a retrouvées dans un garde-meuble dans la banlieue de Chicago, c'est ça ? Comment ça s'est passé qu'il les a retrouvées ? Et surtout, je me posais la question, combien il y en avait ?
C'est très difficile de définir le nombre de photos au départ, parce qu'il y avait énormément de négatifs qui n'ont jamais été tirés.
Ouais.
Et il n'y avait pas un seul garde-meuble, je pense qu'il y en avait 5 ou 7.
Okay.
Je pense peut-être 5, en fait, pour être sûr. En fait, c'était le pur hasard. C'est juste qu'elle ne pouvait plus payer ses garde-meubles, ou elle l'oubliait. Et en fait, ça a été mis dans une vente aux enchères où c'était une enchère en absence. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça.
Ouais,
en fait, on n'a pas le droit de regarder les photos. Donc, un gars les a achetées un peu au pif.
Ouais,
à l'aveugle.
Ah, c'est ça que tu... Okay.
Oui. Et donc, en fait, il les a achetées. Il a découvert vraiment... le gars, au départ, il les a vendus 200 $. Et celui, John Maloof, qui les a achetés, il a découvert une grande photographe.
Ouais,
et par ça, il a eu beaucoup de sous grâce à cette découverte.
Et pour contextualiser, John Maloof, c'est un gars qui habite à Chicago,
ouais,
qui voulait faire un livre de photographie sur l'architecture de Chicago.
Okay.
Et c'est lui qui a donc racheté les négatifs et qui a commencé à les développer. Il y connaissait absolument rien en photo et il a commencé à poster des photographies sur Flickr, je crois, c'est ça, pour voir si des gens trouvaient que ses photos étaient bien, parce que vraiment, okay, il connaissait rien. Et il y a plein de gens qui ont dit, mais c'est génial, faut continuer. Et puis c'est comme ça que la machine est partie, quoi.
Ouais. Si on parle précisément de la BD pour laquelle on se rencontre aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a rendu ce personnage intéressant, finalement? Parce qu'on peut parler de plein de gens en BD, mais pourquoi vous avez jeté votre dévolu sur Viviane Mayer?
C'est un personnage qui est assez complexe, qui est très intrigant, qui est mystérieuse. Quand j'ai découvert ses photos, j'ai eu une grosse fascination déjà pour ses photographies.
Donc c'est toi qui as découvert, Émilie, qui a découvert en premier entre vous deux
Moi j'ai découvert son travail en 2013, okay, un peu avant la sortie donc du fameux documentaire de John Malouf dont on vient de parler.
Ouais.
Parce que c'est vraiment lui qui l'a fait connaître au grand public avec son documentaire d'abord. Mmh. Et puis quand j'ai vu son documentaire, je me suis dit, mais c'est complètement dingue cette histoire, ce serait chouette de creuser. Mais,
direct l'idée il y a 10 ans.
Non, pas du tout. Non, je me sentais pas du tout. Je débutais dans la bande dessinée,
oui,
de l'autobiographie principalement, donc je me voyais pas. Prendre un personnage existant et en faire une bande dessinée, okay, je me sentais pas du tout. J'ai même pas eu l'idée, hein, vraiment.
Et alors, elle est arrivée quand, cette idée?
Elle est arrivée en 2019. Donc, j'ai sorti une bande dessinée qui s'appelle Noir, la vie méconnue de Claudette Colvin, chez Dargo aussi.
Ouais.
Et c'est mon éditrice qui m'a dit, ce serait chouette que tu fasses une autre bande dessinée pour nous. Et là, je me suis dit, mais il y a Viviane, en fait, qui est là, et j'aimerais bien parler d'elle. Et puis, j'en ai parlé avec Magena, et c'est comme ça que ça s'est fait.
Vous connaissiez de toute évidence?
De toute évidence, oui, on se connaissait. Et ça faisait longtemps que je voulais travailler avec Magena. Mmh. On suivait nos travaux respectifs, et puis on a vécu dans la même ville, à Bruxelles.
Ok, et donc toi, Magena, tu t'es occupée du scénario?
Oui, tout à fait. En fait, je me souviens quand Émilie, la première fois, elle m'a parlé du projet de Viviane Mayer. Moi, j'ai découvert Viviane Mayer comme probablement la plupart des gens.
Ouais.
C'est-à-dire, voilà, je pense que c'était sur le site. Est-ce que les réseaux sociaux existaient déjà? Peut-être Facebook, Instagram, je ne me souviens plus. En tout cas, c'est sur le site du journal Le Monde,
ouais,
où j'ai découvert vraiment sa photo, son travail. Et c'était assez hallucinant. Mais c'est vrai que comme on vit dans une société un peu de zapping, lendemain, il y avait une autre information. Mais je l'ai gardée en tête. Mais jamais j'ai imaginé que je ferais une bande dessinée sur elle. Et puis un jour, on était, je pense, à Bruxelles, à la fête de la BD, où Émilie m'en a parlé. Et je me suis dit, oh la vache, mais quelle idée géniale elle a eu. J'étais tellement jalouse. Je me suis dit, putain, mais comment elle a pu imaginer ça? Pourquoi c'était pas mon idée? En plus, je cherchais vraiment à faire une autobiographie. J'aurais adoré faire la biographie de Madonna, ou de quelqu'un vraiment de connu, d'une chanteuse, enfin quelqu'un qui m'a marquée. Et en fait, Émilie m'a proposé d'écrire le scénario. Et donc là, j'étais vraiment...
Ça tombait un peu,
ouais. Ça tombait bien, ouais. Et je pense que c'est, avant tout, le travail sur Viviane Mayer, c'est une histoire d'amitié. Parce que je pense que si on n'était pas amis ensemble, toutes les deux, si on n'avait pas vraiment les mêmes attentes, si on ne se connaissait pas un peu, ça serait pas un travail possible. Parce que c'était vraiment... On était... Donc je pense que... Avant tout, c'était ça, en fait, de connaître Émilie, de se connaître ensemble, parce que vraiment, faire une bande dessinée, c'est presque comme faire un enfant qui va nous poursuivre toute notre vie après. Et...
Oui, puis surtout, on travaille, j'imagine, main dans la main, pas mal, quoi.
Oui, donc, c'est ça, c'est beaucoup de ping-pong, beaucoup d'échanges. Oui, même si, moi, j'écris le texte, Émilie dessine, il y a aussi Viviane qui apporte quand même ses photos, sa vie, on retrace tout ça, et c'est, tout ça, on le faisait ensemble, en fait. Donc, c'est vraiment...
Il y a eu, j'imagine, des désaccords, comment vous avez... Est-ce qu'il y avait une espèce d'angle pour faire cette BD? Parce que, par exemple, il y a des flashbacks, enfin, il y a forcément une manière de penser cette BD. Comment ça se fait, ça?
Oui, au départ, je pense qu'on voulait le raconter même à la première personne.
Okay.
Mais à un moment donné, je me suis dit, ça se trouve, c'est déjà très prétentieux. Déjà, faire de la biographie, je trouve ça un peu prétentieux de prendre la vie de quelqu'un, alors que cette personne n'a jamais rien demandé. Elle n'est pas au courant, et ça se trouve, même Viviane Mayer n'aurait vraiment pas aimé la façon dont elle a vécu sa vie. Le prouve un peu qu'elle était quand même assez discrète, elle n'aimait pas parler d'elle-même, et là, d'un seul coup, on a fait un livre sur elle. Donc, c'était un peu délicat, Et c'est vrai que écrire à la première personne, je me suis dit, mais qui suis-je? Donc en fait, on a trouvé une astuce pour qu'elle parle à elle-même, en fait, dans le livre. Parce que comme beaucoup de gens ont ça, moi j'ai ça de temps en temps, quand je me fâche contre moi, je m'engueule, ou je ne sais pas, je sais pas si Annie a ça, mais voilà, c'est un truc.
Elle n'a pas l'air.
Elle ne va pas le dire maintenant. Mais voilà, donc c'était un peu ça. Et on voulait aussi surtout se concentrer sur ces années américaines. Mais en fait, au fur et à mesure, quand je lisais des articles sur elle, les biographies, parce qu'il y en a plusieurs, je me suis rendu compte que quand même, pour expliquer pourquoi elle fait ça, pourquoi elle était comme ça, il faut chercher vraiment les sources dans son enfance. L'enfance, c'est toujours un peu comme, je sais pas, une construction, comme une maison, c'est vraiment la cave, c'est les fondations. Donc ça m'a semblé un peu vital de mentionner en fait d'où elle venait, comment étaient ses rapports avec d'autres gens, avec sa famille, parce que c'était quand même très présent.
Et on sent aussi qu'elle a quand même un lien assez, assez intéressant avec la France, pour le coup. Mais ce que je voulais dire par rapport à son identité, au fait qu'elle brouille pas mal les pistes, pardon, c'est juste une anecdote qui m'a marqué dans la BD, qui est assez significative. On voit qu'elle essaye un peu de gommer les contours de son identité quand elle rencontre le type qui garde la plage, je sais plus comment on appelle ça. Elle dit qu'elle s'appelle Marie, enfin Mary, que ce sont ses enfants avec elle, alors que non. Enfin bref, on peut un peu parler d'une brouilleuse de pistes dans l'absolu. Donc voilà, je voulais juste mentionner cette anecdote significative.
Je pense qu'elle aimait bien ça, mais je me demande on n'aime pas aussi faire ce genre de truc. Moi, par exemple, je suis polonaise et j'adore quand les Français pensent que je suis belge et les Belges pensent que je suis française. Et en fait, c'est aussi, on peut brouiller les pistes facilement et du coup, ne pas, voilà, être quelqu'un d'autre pendant juste un instant. En quoi ça nous engage, en fait.
Ouais, je suis d'accord, complètement.
Et dans les documents qui ont été retrouvés donc dans les garde-meubles, il y a beaucoup de tickets sur lesquels elle a changé l'orthographe de son nom de famille. Il y a des gens qui ont été interviewés qui racontent que, par exemple, elle parlait avec un accent français en parlant américain, ou elle se mettait dans des rôles, Mais c'est vrai que tout le monde fait ça.
Oui, pour le coup, en ça, elle nous parle un peu à tous, quoi. Oui, de quelle manière vous vous êtes documenté pour réaliser cette BD? Parce que mine de rien, c'est un peu documenté, on peut le dire, puisqu'il s'agit d'une biographie. Je sais, peut-être, probablement toi, Margena, t'as un peu plus travaillé, je sais pas, dessus.
C'était un travail immense. Ouais. Et je pense que c'est un travail qui n'est pas fini, parce qu'il y a de nouveaux trucs qui sortent sans arrêt sur Vianne Marie. Peut-être un peu moins maintenant, mais toujours on parle beaucoup d'elle. Il y a des gens qui se passionnent pour elle, donc ça, c'est vraiment génial. Au début, quand j'ai commencé à écrire le scénario, je pense que le début est venu très spontanément, sans vraiment beaucoup de lecture. Mais après, à un moment donné, je me suis dit, il faudrait quand même que je lise un livre ou deux. Et en fait, je suis plongée dans un truc, parce que c'est vraiment, pour moi, faire cette biographie, c'était un peu comme comment comprendre quelqu'un, ne pas forcément le suivre, mais le devenir, en fait, entrer dans sa tête vraiment être cette personne. C'était presque, pour Vivian Maier, c'était presque comme apprendre une langue étrangère. Parce que vraiment comprendre sa grammaire, comme elle est biculturelle. Donc déjà, je me suis dit que peut-être comme moi je le suis aussi, peut-être c'est un peu plus simple aussi de trouver quelques... Et puis aussi une femme libre, en fait. Donc une précurseur quelque part. J'imagine qu'il y en a eu d'autres avant ou en même temps, mais voilà, elle est quand même, elle a, comment ça se dit, pour moi vraiment c'était une personne très forte pour vivre comme elle vivait. Donc c'était et donc à chaque fois quand je lisais quelque chose de nouveau sur elle, c'est vrai que je la découvrais. C'était vraiment tout ce qui était important, c'était aussi de savoir quelle crème elle utilisait pour sa peau, quelle pointure de chaussures elle portait, ou vraiment savoir tous les détails pour vraiment me projeter un peu dans cette vie, pour apprendre comme une langue, quoi, pour comprendre qui elle était, comment elle construisait ses mots, son univers, ce qu'elle mangeait, où elle allait. Ça, on peut voir à travers ses photos, mais il y a plein de choses que justement les biographies m'ont apporté. Et après, on a eu la chance de rencontrer Françoise Perron, qui est la biographe de Vivian Maier en France, et qui a beaucoup investigué sur le sujet de Vivian, et qui nous a donné toute sa documentation, qui a mis toute sa documentation à notre disposition. Donc c'était vraiment vital pour nous, pour construire notre biographie à nous.
Ouais, et puis la biblio, elle est assez conséquente, je crois, à la fin de la BD. Bref, tout est indiqué.
Mais oui, pour en revenir à ce que dit Margena, c'était très très vertigineux. Et toutes les deux, on a eu des phases où on était bloqués à un moment donné, parce que Margena avait énormément de documentation, il fallait trouver un fil conducteur, et puis on a envie de tout raconter, mais on ne peut pas non plus, sinon ça aurait fait 10 000 pages, et je serais encore en train de la dessiner aujourd'hui.
Et oui.
Et puis par rapport à ses photographies, moi, comme je le disais, je suis en admiration totale devant son travail. Et donc il a fallu que vraiment j'entre dans la peau aussi de cette femme en tant que photographe, en tant qu'artiste, ouais. Et d'essayer de retranscrire au mieux sa vision du monde, sa manière de cadrer les images, sa manière de regarder le moindre détail. Moi, j'aime beaucoup, quand je me promène dans la rue, par exemple, regarder les petites feuilles d'herbe dans les interstices des trottoirs. Bah, elle fait ça aussi. Ouais. Et c'était tout ça qu'il fallait vraiment mettre en scène dans la bande dessinée. Et des fois, c'était impressionnant, quoi. C'était difficile.
Et puis, ces photos aussi.
Oui. Alors, je ne pouvais pas redessiner ces photos, donc je me suis vraiment inspirée de ces photographies et j'ai ponctionné des petits éléments à droite à gauche et j'en ai refait des dessins qui sont comme si c'était ces photos.
Voilà, parce qu'on en parlait justement en bas dessinée. Avec ton attaché de presse.
Oui.
Elle se demandait pour les droits, précisément, de tout ça.
On n'a pas les droits.
Ouais.
D'ailleurs, on voulait une photographie de Viviane Mayer, un portrait d'elle dans le livre, ouais. et la galerie qui gère son patrimoine, on va dire maintenant, n'a pas donné suite
On les embrasse.
À nos demandes. Oui, on les embrasse.
C'est une BD aussi qui est assez, je l'ai trouvée, contemplative à certains moments. Il y a de nombreuses cases sans parole. Ça répondait à quelle envie, tout simplement? Alors ça, oui, peut-être que je m'adresse à toi, Émilie. Bah, je sais pas.
C'est une observatrice du quotidien, donc elle marche, elle déambule dans la rue, elle s'arrête, elle regarde, elle fait des photos. Donc pour moi, ça me paraissait logique qu'il y ait de la contemplation, qu'il y ait des arrêts sur image, ouais. Des pauses dans la vie. Il y a une scène que j'aime beaucoup dans la bande dessinée, c'est quand elle est adolescente et qu'elle se promène dans les rues de New York. Et elle est enivrée, elle court, elle découvre, des mini événements qui se passent dans la rue et c'est tout ça, Viviane. Encore une fois, c'est la vie quotidienne. C'est, je sais pas si tu veux ajouter autre chose par rapport à ça, la contemplation. Puis aussi, excuse-moi. Il y a aussi le fait que, comme elle a vécu en France, donc dans le Champsaur, c'est du côté de Gap, ouais. À Saint-Julien en Champsaur. Nous, on est allé avec Margena là-bas parce que donc Françoise Perron, la spécialiste de Viviane, a vécu là-bas et donc elle nous a reçus chez elle et on a fait énormément de photographies des paysages. Elle nous a emmenés dans sa petite voiture dans les villages où Viviane avait vécu. Elle nous a montré toutes ses maisons. Elle nous a montré là où elle faisait du vélo. Et pour moi, c'était aussi important de dessiner ça. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a des paysages dans la bande dessinée.
Ce qui est particulièrement marquant pour moi, c'est d'imaginer qu'en fait, elle a vécu il n'y a pas si longtemps que ça.
Ouais,
que nos destins se sont croisés, parce que parfois, j'ai tendance à oublier ça. Je me dis, c'est une vieille histoire, en fait. Et pas du tout, c'est pas si vieux que
on
ça.
On vient de parler de Flickr, de trucs comme ça, c'est pas non plus si éloigné de nous. Quoi,
tout à fait. Encore en 2008, elle était vivante. Ouais. Elle est morte en 2009, je pense, en avril. Mm. Mais c'est vraiment, c'est tout récent. Et imaginer tout ça, c'est vraiment,
c'est
ça
fou.
Donne un autre volume. Déjà, quand on est allé dans le Champsaur avec Émilie, on est allé sous la tombe de sa tante, qu'elle s'est battue avec le prêtre, elle s'est battue en figuré, même si elle aurait pu se battre en propre aussi s'il le fallait. Elle s'est battue avec le prêtre pour que sa tante ait une tombe correcte, ouais. En fait. Donc c'est vraiment, on est allé chez des gens qui l'ont croisé, en fait. Pour moi, c'est assez hallucinant, en fait. C'était vraiment, c'est incroyable d'avoir vu la maison de son grand-père, de voir les mêmes paysages, de marcher sur les mêmes routes, de voir sa maison, de...
Il y a des trucs qui ont été organisés, mis en place, des musées, des je sais pas quoi, là-bas, des visites, des touristiques, en fait.
Il y a un panneau devant la maison, ouais. Qui parle de Viviane Mayer, et après, il y a une association de Viviane Mayer dans le coin, mais okay. On n'a pas
mais
pu
y a pas, ils n'ont pas touristifié l'histoire, pas encore, en tout cas.
Pas spécialement, mais après, oui, il y a des panneaux devant des lieux où elle a vécu. Il n'y a pas que devant le domaine du Beauregard, il y en a d'autres. Hein.
Je ne me souviens pas.
Mmh. Ouais. Ok. je voulais parler des couleurs de cette BD. Alors, pour toi, Margena, les couleurs, elles ont été assez importantes à la base, notamment dans la parution de Marzi.
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 c'est différent.
C'est une BD...
rien n'est logique. Ouais.
Ce n'est pas logique, mais ce n'est pas grave, on est là pour le savoir. C'est une, Marzi, c'est une BD autobiographique en 7 tomes qui a paru en 2005, je crois, le premier, qui retraçait ton enfance en Pologne à l'époque communiste. Et puis, il y avait une version, une première version qui était assez... colorée du premier volume, dont on disait parfois qu'elle était un peu enfantine. Enfin, j'ai lu plein de choses de ce type. Et t'as publié après une intégrale, et en changeant un peu les nuances, tu avais apporté des couleurs un peu plus grises, et on prenait cette BD un peu plus au sérieux dans l'absolu. Donc j'imagine que t'as un rapport forcément qui est nécessaire aux couleurs, et donc Émilie, c'est toi qui t'es occupée du dessin. Est-ce que vous avez travaillé les couleurs toutes les deux déjà, ou pas?
Bah, c'est Émilie qui a travaillé les couleurs, mais on en a beaucoup parlé avant.
Beaucoup parlé, ouais.
Et comme le travail de Vivian Maier, c'est beaucoup de photos noir et blanc, donc il fallait obligatoirement inclure ça.
Mm-hmm. Oui, c'est déjà un bon...
Je te laisse parler.
Comment c'est organisé, oui, cette palette de couleurs, cette...
Alors, moi, c'est ma première bande dessinée en total colo. Ouais. Donc, pareil, c'était assez vertigineux.
Et en collaboration par la même occasion, je crois.
Aussi, ouais, j'ai tout fait d'un coup. Alors j'ai choisi un nuancier de couleurs, et puis en fait pour apporter une touche un petit peu années 60, années 70, sur le logiciel Photoshop, j'ai mis un filtre rouge pour que ça réchauffe un peu les couleurs. Et puis après il y a les pages de flashback, donc il y a les pages en champsort, ouais, où je voulais plus reprendre des couleurs un petit peu sépia, c'est comme bien, les vieilles photographies. Et ensuite, il y a les pages à New York qui sont un petit peu plus...
Je comprends cette hésitation.
Ouais, un peu plus beige, qui tendent un peu plus vers le beige que le sépia du champsort. Et puis, il y a aussi, évidemment, bah, la mise en couleur en noir et blanc pour les photographies.
Ouais.
Donc, c'était un gros travail de recherche de couleurs. Et ça, c'est comme pour n'importe quelle bande dessinée, c'est aussi de la documentation. Donc j'ai regardé beaucoup déjà ses photos, mais aussi des objets qu'elle avait. Par exemple...
Oui, ça fait un peu en partie, bien sûr. Oui.
Elle avait des chemises assez bariolées avec plein de motifs différents. Donc okay, ça, je les ai repris...
Cette bande dessinée Vivian Maier Clair Obscur m'a à certains égards fait penser à la bande dessinée que tu as faite sur Claudette Colvin, qui s'appelle Noir, la vie méconnue de Claudette Colvin en 2019, qui était issue d'un bouquin de Tania de Montaigne, pardon. C'était Claudette Colvin, la première femme noire américaine à avoir refusé de céder sa place à un blanc dans le bus dans les années 50, pendant la ségrégation. Et je crois qu'il a pas mal étudié à l'école, ce livre que tu as fait. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose avec cette BD sur Vivian Maier, vous pensez? Est-ce qu'on pourrait trouver des fils comme ça? Parce que Claudette Colvin, il y avait des fils, typiquement, pour parler à la jeunesse. Est-ce qu'ici, vous pourriez imaginer le même destin, finalement, que cette bande dessinée?
Oh bah, ce serait avec plaisir, oui, oui.
Ce serait quoi, les fils?
Bah, déjà, pour parler de Claudette Colvin... Elle a été complètement invisibilisée dans l'histoire avec un grand H, puisqu'on n'a retenu d'elle quasiment rien.
On a retenu d'elle Rosa Parks.
On a retenu d'elle Rosa Parks, oui, qui a fait le même geste qu'elle 9 mois après. Et puis Claudette Colvin, donc elle est toujours en vie, elle a vraiment voulu vivre dans l'anonymat. Ça a été très dur cette période pour elle, parce que... On a dit d'elle que pareil, qu'elle avait des problèmes psychologiques, qu'elle était folle. Quand on lit des choses sur elle dans les livres d'histoire, on retient juste qu'elle était fille mère, qu'elle était détraquée, enfin bref, tout et n'importe quoi. Donc encore une fois, c'est une histoire de storytelling, comme ce qu'on dit sur Vivian Maier, ce qu'on trouve beaucoup sur les sites internet et dans le film de John Malouf, de dire que... elle était tarée, elle voulait pas être connue, que quand on fait des si belles photos, ben pourquoi on veut pas, en gros, être sur le devant de la scène. Et donc il y a ça beaucoup aussi chez Claudette Colvin, de vouloir retourner dans l'anonymat. Et puis aussi, à cette époque-là, il y avait... elle a vécu énormément de racisme. puisque c'était en plein pendant la ségrégation et que ça a mis du temps à s'arranger, et on peut pas dire que ce soit encore complètement arrangé, mais là n'est pas le sujet. Et en fait, il y a des journalistes qui sont revenus la voir des années après, parce qu'il n'y avait plus Martin Luther King, il n'y avait plus Rosa Parks, il n'y avait plus personne pour parler de la naissance du mouvement des droits civiques, de la fin de la ségrégation. Donc ils se sont dit, ah tiens, il y a la petite Claudette Colvin, si on allait frapper chez elle pour voir si elle peut nous en parler. Et elle a pas trop voulu, quoi, parce que c'est douloureux pour elle. Et en fait, pour tirer des fils par rapport à Viviane Mayer, c'est encore une question pour moi de comment trouver sa place quand on est une femme dans la société, comment trouver sa place quand on est dite un peu marginalisée. Ouais, principalement ça. Et puis, oui, et puis ça parle aussi de l'époque des années 50 où c'était très étrange de voir une femme qui avait pas d'enfant, qui était pas mariée, qui se trimballait toujours avec un appareil photo. Elle a fait quand même un tour du monde toute seule. Ouais. Enfin, c'est énorme, c'est hyper courageux pour l'époque. C'est impressionnant.
Aussi, on voit jusqu'à quel point l'art et l'artiste font un.
Ouais.
Je trouve dans le travail dans tout ce que Viviane Mayer représente.
C'est vrai, ouais.
Parce que c'est vraiment son prolongement, en fait. C'est comme son journal intime, c'est quelque chose qui est complètement indissociable d'elle. Donc c'est aussi pour se dire que c'est aussi une grande passion qu'elle a, et que cette passion, comme elle n'a jamais vraiment été monnayée.
Ouais.
Donc en fait, ça reste une passion. Alors qu'au moment où un artiste touche de l'argent, parfois on se perd là-dedans. En fait, quand on commence à être payé pour quelque chose, ça devient un travail. Ça ouais. cesse d'être une passion. Et je sais pas. Je trouve que c'est aussi là que va sa liberté. Que c'est une femme libre déjà, mais son œuvre est libre parce qu'elle fait ce qu'elle veut, comme elle veut. Et est-ce que c'est grave qu'elle ait pas tiré toutes ses photos? Non, enfin, elle avait conscience elle savait quelles photos elle prenait au moment où elle la prenait. D'ailleurs, elle l'a dit plusieurs fois dans plusieurs livres. J'ai entrecoupé ces informations. Donc, pour moi, c'était vraiment, cette personne était une incarnation de liberté. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important, et je pense que c'est un truc qu'il faut inculquer aux gens.
Ouais, et notamment aux jeunes, t'as raison. Ouais. Je voulais parler de votre actu. Est-ce que, après Viviane Mayer, il se passe des choses? Toi, je sais, Marjana, que t'as une adaptation de Petit Pays de Gaël Faye qui est prévue, je ne sais quand.
12 avril.
Qui est prévue, le 12 avril. Je ne sais pas s'il y a d'autres trucs dont vous avez envie de parler ou pas.
J'ai aussi une bande dessinée qui va paraître chez Gallimard au mois de mai, qui s'appelle Hey Joe, c'est avec Geoffrey Delinde, qui parle de l'univers des routiers.
Ok.
Donc voilà, c'est un père qui est routier, qui amène son fils en voyage avec lui sur la route. Donc voilà, je traverse la France.
Ok.
Et aussi un western chez Delcourt, mais c'est à la rentrée, en septembre, et un livre jeunesse à la pastèque avec Johanna Loro, qui va sortir aussi cette année. Et j'ai aussi un film documentaire qui sort cette année. Cette année assez dingue, qui parle de ma marraine, donc aussi quelque part une femme forte que je dévoile devant les spectateurs. Voilà.
Génial.
Qui va sortir cet été sur France 3, national, international. Enfin, pas international, national et régional. Et puis, en Belgique, demain.
Ok, trop bien. Plein de projets, félicitations.
Oui, mais oui, voilà, c'est pour moi.
Moi, je vais me reposer parce que Marjana me fatigue, elle travaille trop, donc voilà. Non, pour l'instant, je réfléchis à d'autres projets, mais j'ai encore rien de vraiment concret.
Ok. C'est pas plus mal, ça. On a besoin de ces périodes aussi, j'ai l'impression.
Mais c'est ça, tout à fait.
Génial. Je vais vous poser la dernière question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invitées. Est-ce que vous avez plusieurs coups de cœur culturels à nous partager?
Alors, si je peux parler pour nous deux, on en a un commun, c'est le film de Wim Wenders, Perfect Days. Alors, si je peux résumer, c'est un gars qui nettoie des toilettes au Japon.
C'est le dernier.
Et en fait, c'est un gars qui m'a beaucoup fait penser à Viviane Mayer.
Okay.
Parce que il se lève le matin, on le voit, il sort de chez lui, il regarde le ciel, il va nettoyer les poubelles, les poubelles des toilettes et les toilettes au Japon. Et puis, il s'attarde sur plein de détails du quotidien. Il va prendre en photographie des ombres à travers les feuilles des arbres. Il va parler avec des gens. Il va vraiment être complètement focalisé sur la banalité totale. Et puis, en plus de ça, il est aussi très intéressé par la culture, par la musique. Et Viviane, elle lisait aussi beaucoup. Ça, on n'en a pas parlé, mais ouais. Elle lisait beaucoup. Et lui, chez lui, il y a aussi des boîtes avec plein de photographies dedans qui garde. On le voit à un moment donné, il va chercher ses photographies développées, puis il les regarde, puis il en déchire, il en garde. Enfin, il y a vraiment un truc comme ça, un peu à la Viviane Mayer. Je sais pas si tu veux ajouter un truc sur ce personnage.
Oui, en fait, c'est ce qui est drôle, c'est quand on dit qu'elle est morte dans l'anonymat, Viviane Mayer, parce que du coup, il y a une tristesse comme ça. Oh là là, elle est morte dans l'anonymat. On s'est dit, mais tout le monde meurt dans l'anonymat, en fait. Donc alors que vraiment, il y a quelque chose de très beau et très poétique dans sa façon de où elle déploie chaque journée, je trouve, comme justement. Le japonais dans le film de Wim Wenders, qui vraiment chaque journée, qui se ressemble, il y a des petites nuances, il lit un autre livre, il prend une autre photo, il déchire des photos parce qu'il n'est pas content, mais il y a quelque chose vraiment où on se laisse embarquer parce que c'est la vie, en fait, de nous tous. Et en fait, je ne l'ai pas lu, mais j'ai très envie de le lire. Je lis des extraits de Infraordinaire de Georges Perec. Je ne l'ai jamais lu, mais je pense que c'est quelque chose juste d'extraordinaire parce que justement, il parle de ça, de l'infraordinaire, où on, vraiment, où par exemple, je sais pas, je veux pas non plus mentir, mais si mes souvenirs sont bons, c'est combien de pas il faut pour aller jusque là. En fait, c'est vraiment des petits trucs comme ça, oui, où on réfléchit pas, qu'on respire à toutes ces choses-là. En fait, nous vivons malgré nous, en fait, notre corps vit. Et voilà, donc c'est aussi de ça que parle le travail de Viviane Mayer, je pense, de toutes ces choses auxquelles on ne pense pas, en fait.
Merci beaucoup. Et bien voilà, La Quille, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité pour parler culture. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à vous abonner aux réseaux sociaux de La Quille, notamment Instagram, et puis en parler autour de vous, tout simplement. Merci beaucoup pour votre écoute, et à la semaine prochaine.